Chapitre 18. La simonie, commerce étrange et sacrilège du sang de Jésus-Christ. Pendant une des heures délicieuses que nous passions invariablement après dîner dans le salon du presbytère, mon collègue, l'abbé Parent, dit au curé têtu : Ce matin, j'ai remis à l'évêque plus de 100 $ comme prix des messes que mes pieux pénitents m'ont prié de dire pour les âmes du purgatoire. Chaque semaine, je dois faire la même chose, ainsi que chacun de vous. Or, nous savons que parmi les centaines de prêtres du Canada, il n'y en a pas un seul qui n'en donne presque autant. Maintenant, j'aimerais savoir comment l'évêque dispose de toutes ces messes et ce qu'il fait de ces grosses sommes d'argent qui tombent dans ses mains de tous les coins du pays. Cette question m'intrigue et je désirerais là-dessus savoir votre opinion. Le curé répondit en plaisantant. Si les messes qu'on nous paye et qui tombent dans les mains de l'évêque sont toutes célébrées, le purgatoire doit se vider 2 fois par jour. Car j'ai calculé que l'argent donné chaque jour pour ces messes ne s'élève pas à moins de 4 000 $. Et comme il y a aux États-Unis 3 fois plus de catholiques qu'ici, et que les catholiques irlandais ont beaucoup plus de dévotion que les Canadiens envers les âmes du purgatoire, il s'ensuit qu'on peut dire sans exagération que 16 000 $ au moins sont journellement donnés dans ces deux pays pour faire verser de l'eau froide sur les flammes brûlantes de cette terrible prison. Maintenant, ces 16 000 $ qui sont donnés chaque jour pour ces messes, multipliés par les 365 jours de l'année, forment la jolie somme de 5 840 000 $ qui sont annuellement consacrés à cet objet en messe basse. Mais, comme nous savons tous que l'on paye les grandes messes plus du double que les messes basses, il est évident que plus de 11 680 000 $ sont dépensés chaque année dans la seule Amérique du Nord afin d'aider les âmes à sortir du purgatoire. Si ces millions de dollars ne rendent aucun service aux âmes du purgatoire, ils ne sont pas sans profit pour nos pieux évêques et nos saints pères les papes, entre les mains desquels la plus grande partie restera jusqu'au jour du jugement. Car il n'y a pas dans le monde entier un nombre de prêtres suffisant pour pouvoir dire toutes les messes qui sont payées par le peuple. Je ne sais pas plus que vous ce que les évêques font de ces millions de dollars. Je suppose qu'ils les consacrent à leurs bonnes œuvres secrètes. Mais il est évident qu'il y a là un sérieux mystère. Je ne voudrais pas dire cependant que les évêques yankees et canadiens avalent ces grosses piles de dollars comme de savoureuses oranges et qu'ils ne sont qu'une bande d'escrocs qui en emploient d'autres appelés têtus, baillargeons, parents, chiniquis, etc. pour remplir leurs trésors. Mais si vous voulez savoir mon opinion sur cette matière délicate, je vous dirai que moins nous y penserons et en parlerons, mieux ce sera pour nous. Toutes les fois que ma pensée se dirige vers ces fleuves d'argent qui coulent jour et nuit des petites bourses de nos pieuses mais bien pauvres populations, dans nos mains et de nos mains dans celles des évêques, je me sens comme suffoqué. Si je me trouve à table, je ne puis plus boire ni manger, et quand je suis au lit, je ne puis pas dormir. Or, comme je veux manger, boire et dormir, je repousse ces pensées aussi loin que possible, et je vous conseille d'en faire autant. Les vicaires parurent disposés à accepter la conclusion du curé. Mais, comme je n'avais pas encore ouvert la bouche, ils me demandèrent de leur donner mon idée sur ce désagréable sujet, ce que je fis de la manière suivante. Il y a dans notre Sainte Église beaucoup de choses qui semblent des taches noires. Mais je crois que cela n'est dû qu'à notre ignorance. Nul doute que ces choses nous paraîtraient aussi blanches que la neige si nous pouvions les voir telles qu'elles sont. Nos saints évêques, avec la majorité des prêtres catholiques des États-Unis et du Canada, ne peuvent être cette bande de voleurs et d'escrocs dont les fantômes glacent le sang de notre digne curé. Tant que nous ne saurons pas ce que les évêques font des innombrables messes qui leur sont payées, je préfère croire qu'ils agissent comme des hommes honnêtes. J'avais à peine dit ces quelques paroles que je fus appelé pour aller visiter un malade et la conversation finit là. 8 jours après, j'étais seul dans ma chambre lisant « L'ami de la religion et du roi », journal de Paris, publié par Picot. Ma curiosité ne fut pas peu excitée lorsque, en tête d'une page, je lus en grosses lettres « Admirable piété du peuple canadien français ». La lecture de cette page me fit verser des larmes de honte et elle ébranla ma foi jusque dans ses fondements. Incapable de me contenir, je courus aux chambres des vicaires et du curé et je leur dis « Il n'y a que quelques jours, nous avons essayé, mais en vain, de savoir ce que deviennent les énormes sommes d'argent que le peuple fait passer par nos mains dans celles des évêques pour avoir des messes. Voici la réponse. J'ai la clé de ce mystère. digne des âges les plus ténébreux de l'Église. J'aimerais mieux être mort que de voir de mes yeux une telle abomination. » Nous lûmes alors cet article, dont la teneur était que le très vénérable évêque de Québec n'avait pas envoyé moins de 200 000 francs à différentes reprises aux prêtres de Paris pour leur faire dire 1 million de messes à 5 sous la pièce. Nous avions la triste preuve que notre évêque avait extorqué à notre pauvre peuple, sous prétexte de sauver les âmes du purgatoire, 800 000 francs. Cet article tomba sur nous comme un coup de foudre. Pendant longtemps, nous nous sommes regardés les uns les autres sans pouvoir prononcer une seule parole. Nos langues étaient comme paralysées par la honte. Nous avions l'air de vides criminels qui viennent d'être pris sur le fait. Enfin, Baillargeon, s'adressant au curé, dit « Est-il possible que nos évêques soient des escrocs et que nous leur servions d'instruments pour tromper le peuple ? Que dirait ce peuple s'il savait que non seulement nous ne disons pas les messes pour lesquelles il nous remplit les mains de son argent, si péniblement gagné, mais que nous envoyons ces messes à Paris afin de les faire dire pour 5 sous ? Que penserait-il de nous tous s'il savait que nos évêques empochent 20 sous sur chaque messe que nous devons dire à son intention ?» Le curé répondit « Il est vraiment heureux que notre peuple ignore cette opération financière de nos évêques, car ils nous jetteraient certainement tous dans la rivière. Tenons ce honteux commerce aussi secret que possible, car en quoi consiste la simonie si ce trafic n'en est pas là ?» Je répliquai « Comment pouvez-vous espérer de garder le secret sur ce commerce infâme lorsque non moins de 40 000 exemplaires de ce journal circulent en France et qu'il en arrive plus de 100 exemplaires aux États-Unis et au Canada ?» Le danger est plus grand que vous ne le supposez. Il est à nos portes. N'est-ce pas à cause de pareils crimes publiquement reconnus et des vils tours d'escamotage du clergé de France que la nation française en général a non seulement perdu tout vestige de religion, mais a condamné à mort, il n'y a pas encore un demi-siècle, tous les prêtres et tous les évêques de France comme des malfaiteurs ? Mais cette opération mercantile de nos évêques revêt encore un caractère plus odieux lorsqu'on sait que ces messes de 5 sous qui sont dites à Paris, ne valent pas un sou. Car qui ignore parmi nous que la plus grande partie des prêtres de Paris sont plus qu'à moitié incrédules et que beaucoup d'entre eux vivent publiquement une vie de débauche ? Notre peuple nous confierait-il son argent si nous étions assez honnêtes pour lui apprendre que ces messes sont dites à Paris pour 5 sous par de tels prêtres ? Ne le trompons-nous pas lorsque nous acceptons son argent, à la condition, bien entendu, que nous offrions à son intention le Saint-Sacrifice, tandis que nous l'envoyons en France pour en disposer d'une manière si criminelle. Mais si vous me permettez d'ajouter quelques mots, je vous parlerai d'un autre fait étrange, étroitement lié à cette opération simoniaque. Vous souvenez-vous comment vous avez été enrôlé dans la Société des Trois Messes ? Qui de nous aurait pensé que par la nouvelle obligation que nous nous imposions, la plus grande partie de l'année serait employée à dire des messes pour les prêtres et qu'il nous deviendrait impossible de satisfaire aux pieuses demandes du peuple ? Nous appartenions déjà à la Société de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint-Michel, ce qui élevait à 5 le nombre des messes que nous devions célébrer pour chaque prêtre défunt. Éblouis par l'idée qu'à notre mort, il serait dit pour chacun de nous 2000 messes, nous avons mordu, comme des poissons affamés, à l'appât que nous présentait l'évêque sans réfléchir à l'hameçon. En conséquence, nous avons dû dire 165 messes pour les 33 prêtres qui sont morts depuis une année. Ce qui signifie que chacun de nous a payé à l'évêque 41 $ pour des messes qu'il a fait dire à Paris pour 8 $. Chaque messe que nous célébrons ici pour un prêtre défunt est une messe que l'évêque envoie à Paris et sur laquelle il prélève 1 franc. Par conséquent, plus il empoche de francs dont le peuple et nous sommes fraudés. De là son incroyable zèle pour attirer chacun de nous dans la Société des Trois Messes. Ce n'est pas la valeur de l'argent que notre évêque nous arrache si habilement des mains que je considère, mais je suis désolé lorsque je vois que, par ces sociétés de messes, nous devenons les complices de la simonie. Car, étant forcés la plus grande partie de l'année à célébrer le Saint-Sacrifice pour le bénéfice des prêtres défunts, nous ne pouvons pas dire les messes pour lesquelles le peuple nous paie journellement. En conséquence, nous sommes obligés de faire passer ces messes dans les mains de l'évêque qui les envoie à Paris après avoir prélevé 20 sous sur chacune. Mais pourquoi nous lamenter sur le passé ? Le passé n'est plus en notre pouvoir, mais l'avenir est dans nos mains. Monsieur Têtu répondit, « Vous avez montré l'erreur du passé. Maintenant, pouvez-vous nous indiquer quel remède pour l'avenir ? Je ne puis pas dire que le remède qui est à notre disposition soit une de ces médecines brevetées capables de guérir toutes les infirmités de notre Église au Canada. Mais j'espère qu'il amènera une rapide convalescence. Ce remède, c'est de détruire la société des trois messes et d'en établir une d'une messe, qui sera dite à la mort de chaque prêtre. De cette manière, il est vrai, au lieu de 2000 messes, nous n'en aurons à notre mort que 1200, trois fois par jour au lieu de 5. Mais si les 1200 messes ne nous ouvrent pas les portes du ciel, ce sera parce que nous serons en enfer. Par cette réduction, nous serons à même de dire beaucoup plus de messes pour le peuple et nous diminuerons le nombre des messes à 5 sous que notre évêque fait dire par les prêtres de Paris. Si vous adoptez mon avis, nous nommerons immédiatement M. Tétu président de la nouvelle société. M. Parent sera le trésorier et je consens à me charger des fonctions de secrétaire. Lorsque notre société sera organisée, nous enverrons notre démission au président de la Société des Trois Messes et nous adresserons sans délai une circulaire à tous les prêtres du Canada pour leur indiquer les raisons de ce changement et leur demander respectueusement de s'unir à nous dans cette nouvelle société afin de diminuer le nombre des messes célébrées à 5 sous par les prêtres de Paris. 2 heures après, la nouvelle société était complètement organisée. Les raisons de sa formation furent consignées dans un registre et nos 5 noms furent envoyés à l'évêque avec une lettre respectueuse l'informant que nous n'étions plus membres de la Société des Trois Messes. Cette lettre était signée Charles Chiniki, secrétaire. 2 heures après, je recevais de l'évêché la note suivante. Monseigneur l'évêque de Québec désire vous voir immédiatement pour une affaire très importante et très pressante. Ne manquez pas de venir sans retard. Votre dévoué, Charles F. Cazot, secrétaire. Je montrai cette missive au curé et au vicaire et je leur dis. Une violente tempête gronde sur la montagne. Voici le premier coup de tonnerre. L'atmosphère est sombre et pesante. Priez que je puisse parler et agir comme un prêtre honnête et courageux. Je rencontrai, dans le vestibule de l'évêché, mon ami personnel, le secrétaire, qui me dit « Mon cher Chiniki, tu vogues sur une mer périlleuse. Tu seras habile marin si tu échappes au naufrage. L'évêque est très irrité contre toi, mais ne te décourage pas, car le droit est de ton côté. » Il ouvrit ensuite la porte du salon de l'évêque et il dit « Monseigneur, M. Chiniki est ici, attendant vos ordres. »« Faites-le entrer, » répondit l'évêque. J'entrai et je me jetai à ses pieds selon l'usage des prêtres. Mais l'évêque, reculant de 2 ou 3 pas, me dit, d'un ton sévère, « Je n'ai pas de bénédiction pour vous avant que vous m'ayez donné une explication satisfaisante de votre étrange conduite. » Je me relevai. « Monseigneur, que désirez-vous de moi ?»« Je veux, monsieur, me dit l'évêque, que vous m'expliquiez cette lettre que vous avez signée comme secrétaire d'une certaine société nouvellement éclose appelée Société d'une messe. » En même temps, il me montra ma lettre. Je lui répondis. « Monseigneur, la lettre est en bon français. Votre grandeur doit l'avoir comprise. Je ne crois pas qu'une explication puisse la rendre plus claire. » « Je veux savoir de vous, reprit-il, la raison pour laquelle vous quittez la Société des Trois Messes, si ancienne et si respectable. Ne se compose-t-elle pas de votre évêque et de tous les prêtres du Canada? N'êtes-vous pas en assez bonne compagnie? Ou bien objectez-vous aux prières qui sont dites pour les âmes du purgatoire? » Je répondis, « Monseigneur, je veux rappeler à votre grandeur un fait qui n'a pas assez attiré son attention. Le grand nombre de messes que nous devons dire pour les prêtres défunts nous met dans l'impossibilité de célébrer celles qui nous sont payées par le peuple. Nous sommes donc forcés de vous transmettre ces messes, mais au lieu de les faire dire par les bons prêtres du Canada, votre grandeur a recours aux prêtres de France, qui les disent pour 5 sous. Nous voyons en cela 2 grands mots. Le premier, c'est que nos messes sont dites par des prêtres en qui nous n'avons aucune confiance et, quoiqu'elles soient à bon marché, elles sont encore payées trop cher. Car entre nous, sauf quelques rares exceptions, les messes dites par les prêtres de Paris ne valent pas 1 sou. Le second mal est encore plus grand, car à nos yeux, c'est une des plus énormes iniquités contre lesquelles l'Église a eu à sévir dans les siècles, le crime de simonie. Entendez-vous dire, répliqua l'évêque, avec indignation, que je sois coupable de simonie? Oui, monseigneur, c'est justement ce que je veux dire. Vous m'insultez, s'écria l'évêque. Vous êtes l'homme le plus impudent que j'ai jamais vu. « Si vous ne rétractez pas ce que vous venez de dire, je vous suspends et vous excommunie sur le champ. » Ma suspense et mon excommunication, lui répondis-je, n'amélioreront pas la position de votre grandeur, car le peuple saura bientôt que vous m'avez excommunié parce que j'ai protesté contre votre trafic de messes. Il saura que vous empochez 20 sous sur chaque messe que vous faites dire à Paris pour 5 sous par des prêtres indignes. Et vous verrez qu'il n'y aura qu'une voie au Canada pour me bénir d'avoir protesté contre votre commerce simoniaque sur une chose aussi sacrée et aussi sainte que le redoutable sacrifice du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de Jésus-Christ. Je prononçai ces paroles avec un calme si parfait que l'évêque vit que je n'avais pas la moindre peur de ses foudres. Il commença à se promener de long en large par la chambre et il amoncela sur ma tête toutes les épithètes qui devaient m'apprendre que j'étais un insolent, un rebelle, un prêtre dangereux. « Il est évident, me dit-il, que vous allez devenir au Canada un réformateur, un Luther au petit pied. Mais vous ne serez jamais qu'un singe. » Je vis que mon évêque était hors de lui-même et que mon calme imperturbable ajoutait à son irritation. Je lui répondis. Si Luther n'avait jamais rien fait de pire que ce que je fais aujourd'hui, il devrait être à jamais béni par Dieu et par les hommes. Je prie votre grandeur de se calmer. Le sujet sur lequel je lui parle est plus sérieux qu'elle ne le pense. Votre grandeur, en demandant 25 sous pour des messes qu'elle fait dire pour 5 sous, commet une action qu'elle condamnerait si elle était faite par un autre homme. Vous creusez sous vos pieds et sous les pieds de vos prêtres le même abîme dans lequel l'Église de France a failli périr. Il n'y a pas encore un demi-siècle. Vous détruisez de vos propres mains tout vestige de religion dans le cœur du peuple qui connaîtra tôt ou tard votre commerce simoniaque. En ce moment, je suis votre meilleur ami et le plus respectueux de vos prêtres. Et, avant qu'il soit trop tard, je vous dis la vérité. Je déplore profondément l'illusion qui vous empêche de voir la terrible conséquence qu'aura ce commerce quand notre peuple apprendra que vous abusez de son ignorance et de sa bonne foi. Malheur à votre grandeur, malheur à moi, malheur à notre Sainte Église, le jour où notre peuple apprendra que dans notre sainte religion, le sang de Jésus-Christ est converti en marchandise pour remplir les trésors des évêques et des papes. Ces dernières paroles, prononcées avec le plus grand calme, eurent leur effet. L'évêque se tranquillisa et me répondit. Vous êtes jeune et sans expérience. Votre imagination se repaît facilement de fantômes. Lorsque vous serez plus âgé, vous changerez de sentiment et vous aurez plus de respect pour vos supérieurs. J'espère que votre présente erreur sera seulement momentanée. Bien que je puisse vous punir pour l'insolence avec laquelle vous avez osé parler à votre évêque, je préfère vous avertir d'être plus respectueux et plus obéissant à l'avenir. Je regrette que vous m'ayez demandé de rayer votre nom de la Société des Trois Messes, vous et les quatre imbéciles qui ont commis le même acte de folie. Mais vous êtes les seuls perdants dans cette affaire. Au lieu de 2000 messes, dites pour la délivrance de votre âme des flammes du purgatoire, vous n'en aurez que 1200. Car, soyez-en certains, il y a trop de sagesse et de piété dans mon clergé pour qu'il suive votre exemple. Vous resterez seul, et je le crains, couvert de ridicule. On vous appellera le petit réformateur. Je répondis à l'évêque. Je suis jeune, il est vrai, mais les vérités que j'ai dites à votre grandeur sont aussi vieilles que l'Évangile. J'ai une telle confiance dans les mérites infinis du Saint-Sacrifice de la messe que je crois sincèrement que 1200 messes, dites par de bons prêtres, seront suffisantes pour délivrer mon âme des feux du purgatoire. D'ailleurs, je préfère 1200 messes, dites par de bons prêtres, à 1 million, dites par les prêtres à 5 sous de Paris. Ces dernières paroles prononcées sur un ton demi-sérieux et demi-plaisant déridèrent quelque peu le front de l'évêque. Je pensais que c'était le bon moment de recevoir sa bénédiction et de prendre congé de lui. Je m'agenouillai à ses pieds, il me bénit et je partis. Ma courte absence avait été pour le curé et les vicaires une heure d'anxiété. Aussi, mon prompt retour les remplit de joie. « Quoi de nouveau ? » s'écrièrent-ils. « De bonnes nouvelles, » répondis-je. « La bataille a été rude, mais nous l'avons gagnée. Et si nous tenons ferme, une nouvelle et plus grande victoire nous attend. » L'évêque paraît si assuré que nous sommes les seuls qui voulions cette réforme qu'il ne remuera pas le doigt pour empêcher les autres prêtres de nous suivre. Cette indifférence rendra notre succès infaillible. Ne perdons pas un instant. Commençons immédiatement par envoyer notre circulaire à chaque prêtre du Canada. Une heure après, nous étions plus de 20 écrivains à l'œuvre. et avant 24 heures, plus de 300 lettres avaient été expédiées aux membres du clergé, leur donnant les raisons pour lesquelles nous voulions essayer, par tous les moyens honnêtes, de mettre fin à ce honteux trafic des messes qui se pratiquait entre le Canada et la France. La semaine s'était à peine écoulée que de nombreuses lettres de curés et de vicaires arrivaient à l'évêque, le priant respectueusement de rayer leur nom de la Société des Trois Messes. 50 prêtres seulement refusèrent de se joindre à nous. Depuis cette époque, jusqu'à ces dernières années, les journaux soutenus par le clergé ne manquaient jamais à la mort d'un prêtre de mentionner si le défunt appartenait à la Société des Trois Messes ou d'une seule. Nous avions diminué cet infâme commerce des messes. Malheureusement, nous n'avions pu le détruire. Dans ces dernières années, les évêques du Canada ont retiré la Société des Trois Messes du tombeau où nous l'avions fait descendre.